Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr. C'est bon.
Le carpaccio, ce plat créé à la minute pour faire plaisir à une cliente, aurait pu porter le nom de son créateur. Mais non, finalement, c'est le nom d'un peintre vénitien dont on exposait l'étoile ce jour-là à Venise qui fut donné au plat. Et si ces toiles ne sont pas forcément les plus célèbres du monde, le plat, lui, a fait des milliards de fois le tour de la planète.
Carpaccio de tomate, la noire de Crimée, sublime, avec une huile d'olive dans laquelle vous aurez ajouté 3 gouttes de fleurs d'oranger.
Il vous faut une petite mandoline, ça va être pour couper en lamelles très très fines notre navet.
Jus de citron vert, huile d'olive et gingembre frais.
Ouais.
Donc là, après, je mets ça sur mon carpaccio.
Allez, bon appétit.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster pour une nouvelle émission d'été. Il fait chaud, c'est l'heure du carpaccio. Définition du carpaccio, technique consistant à découper des aliments en fines lamelles crues, de la viande bien sûr mais pas seulement. Tout notre défi aujourd'hui, c'est de faire des carpaccio différents. Le poisson, les légumes, les fruits peuvent passer sous la lame affûtée du couteau ou de la trancheuse. Et oui, le carpaccio est versatile et transformiste. On reçoit ce matin une vraie dingo du carpaccio sous toutes ses formes. C'est Anne Etor, bonjour.
Bonjour.
Le carpaccio, des recettes qui tranchent. C'est le charmant recueil de recettes que vous venez de publier aux éditions de l'Épure avec les savoureuses illustrations d'une illustratrice italienne. C'est Alessia
Serafini.
Alessia Serafini, très très beau dessin, belle performance artistique. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, Anne, aujourd'hui?
J'ai préparé 3 carpaccio, un de bar avec de la salicorne, du pourpier, du sarrasin et de l'huile d'olive. Un autre avec des légumes, des courgettes, des navets, des petites fleurs de bourrache. Et puis, j'étais à Vintimille le week-end dernier et j'ai rapporté des oranges.
Génial.
Donc j'ai fait un petit carpaccio d'oranges.
Mon champignon préféré, la manette des Césars.
Je ne le savais pas, ça tombe bien.
Végétaux, donc des carpaccio végétaux, on va le voir. Votre façon de découper, votre façon de condimenter, on va en discuter avec vous. Et puis nous avons également avec nous une cuisinière originaire du nord-est de l'Italie, région de naissance du vrai carpaccio, elle va nous en rappeler l'histoire. C'est Eleonora Zuliani, bonjour.
Bonjour François.
Vous allez bien?
Oui, très bien.
Vous êtes au fourneau d'Il Baccaro, c'est vraiment un restaurant d'influence vénitienne dans le 11e arrondissement de Paris. On va revenir avec vous sur les racines du vrai carpaccio vénitien. On vous a même lancé le défi de réaliser la recette originelle. Elle est à vos côtés, on va la goûter dans un instant. Le carpaccio d'un certain...
Giuseppe Cipriani,
voilà, si ça vous dit quelque chose. Nous suivrons également notre reporter Stéphane Combe à Fleury-d'Aude, dans le département de l'Aude. Il s'est faufilé dans les cuisines de Jérôme Jordi, le chef de la Tulipe Noire, pour un carpaccio très légumier. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, Elvira Masson et notre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Elvira.
Sois le changement que tu veux voir dans le monde. On lui doit cette phrase célèbre. On doit aussi à ce grand leader pacifiste un chemin très personnel vers le végétarisme.
Très bien.
Vous avez deviné ?
Réponse.
Laisse suspense.
Réponse solution des jeux avec Elvira Masson dans le courant de cette émission. Antoine ?
Moi, je vous ai préparé un voyage littéraire, un voyage gustatif de Gaillac à Prague en passant par Caen.
Attention au jet lag.
Il y a un petit côté carpaccio dans ma rubrique.
D'accord. Ouais. Écoutez, on va voir ça en tranche, j'espère. Pour nos conseils pratiques, nos bonnes adresses, nos recettes estivales, tous nos podcasts, l'émission reste ouverte pendant tout l'été sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
En ce mois de juillet ensoleillé, Elvira, vous nous emmenez du côté de la Bretagne pour faire l'école buissonnière.
C'est un peu ça. J'ai pris des nouvelles de Claire et Adrien Poirier, nos amis producteurs récoltants de plantes à infusion sous le nom de l'amande verte.
Mm-mm.
Effectivement, en Bretagne, dans le pays de Redon, à Sixt-sur-Raffe. Alors, ils y cultivent en bio, récolte manuelle, plus de 200 variétés de plantes, de la camomille, bien sûr, du thym, de la verveine, mais aussi du chiseau, de la guimauve, du plantain, de la mauve, de l'hysope, dont ils font des mélanges de plantes merveilleux.
Et des infusions extraordinaires.
On les a goûtées ici, ils sont venus ici nous en parler. Ils sont installés dans un petit écosystème d'1 hectare, hyper vertueux, de nouveau ouvert au public après de longs mois de fermeture. Et ils ont besoin qu'on passe les voir, qu'on vienne leur rendre visite. Il y a le café librairie qui est charmant, qui est ouvert le vendredi et le dimanche. Le jardin en visite libre et tout l'été, le jeudi à 15h, sur réservation. Claire vous emmène en balade à la découverte des plantes aromatiques de son jardin. Elle propose aussi des stages de création d'infusions, des ateliers de dégustation. Donc vraiment, si vous êtes dans le coin, si vous avez la chance d'y vivre, si vous avez la chance d'y passer vos vacances, foncez, c'est beau, c'est bon et ça fait du bien. www.amandeverte.fr.
Sachant qu'on ne le précisera jamais assez, l'amande verte, c'est amande.
Ah oui, pardon. Amande, c'est pas la menthe comme l'amande poivrée, c'est
voilà.
Amande.
C'est verte. Amande, absolument, et c'est vraiment un petit endroit extraordinaire.
C'est un bijou d'endroit.
Oui, que vous appréciez beaucoup.
Ils sont très contents de vous voir.
Et on les suit vraiment depuis le début de leur aventure.
Ouais. Parce qu'on adore leur boulot.
Encourageons Claire et Adrien Poirier à l'amande verte. Un grand merci, Elvira. Alors moi, je vous ai apporté. Vous avez comme ça des petites barquettes sous les yeux, des surprises très estivales et très végétales. Je vais vous demander à chacun de goûter ce que vous avez en nous précisant le contenu de votre barquette, Anne-Thore.
Aubergine et légumes croquants.
Qu'est-ce que vous avez, Léonora?
J'ai une bolognaise, des lentilles et ricotta.
Antoine?
Ceviche, carottes et coriandre.
Ça sonne très végétal tout ça, Elvira.
Et moi j'ai le dessert, des fraises à la crème d'avoine. J'ai déjà fini moi.
Et moi, j'ai hérité d'une entrée, courgette, burrata, pignon. Je dois préciser d'ailleurs que c'est la burrata made in Paris de Nanina. Les courgettes sont d'Éricroix, en Indre-et-Loire, oui. Un formidable maraîcher. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, en un petit mot?
C'est très bien assaisonné et c'est très bon.
Bah, je sens du cumin, vu que moi je suis une addict à du cumin. Forcément, je trouve ça très bon. Mm-hmm. Et après, c'est vrai que la bolognaise, c'est vraiment un nom... Pour donner les noms du sauce, ça n'a rien à voir. C'est une bolognaise végétarienne. Mais c'est très sympa, franchement. Très frais.
Et moi, c'est également très bien relevé de mon côté, avec des courgettes encore un peu croquantes. Une petite sauce pesto mentholée, très rafraîchissant. C'est vraiment une chouette initiative. Et ces prouesses sont sorties tout droit du cerveau d'un certain Romain Médère.
Ah, la naturalité.
Voilà. Alors, on ne connaît pas forcément ce cuisinier. Pourtant, c'est un chef 3 étoiles du restaurant Le Plaza Athénée. Hein, c'est le fameux palace parisien piloté par Alain Ducasse. Mais c'est un chef très discret avec une éthique de cuisine exemplaire. Beaucoup de protéines végétales, des produits paysans sourcés en direct auprès des producteurs en circuit court. Et ce chef Romain Médère met vraiment ses convictions au service d'un nouveau modèle de restauration né de la crise sanitaire. Ça s'appelle Naturaliste. Vous en avez entendu parler?
Ouais, non.
C'est une plateforme de livraison de plats cuisinés à domicile créée avec le concours d'Alain Ducasse. Et c'est une jeune chef pleine de ressources, Charlotte Bringand, qui est à la manœuvre en cuisine. Et ce projet, en fait, coche toutes les cases d'une démarche de restauration engagée. D'abord, c'est bon, c'est frais, c'est équilibré, on vient de le vérifier. C'est préparé à partir de produits issus d'une agriculture responsable en circuit court. Ensuite, autre avantage, c'est que c'est démocratique. Entrée entre 5 et 8 euros, plat entre 10 et 12 euros, dessert entre 5 et 7 euros pour un ticket moyen autour de 20 euros, ce qui est quand même une bonne performance à Paris avec des produits aussi exceptionnels. Tout ça pour un repas complet et très bien cuisiné. Autre engagement de Naturaliste, c'est l'anti-gaspi. Rien n'est jeté, tout est recyclé, même les épluchures de concombres. Et les fans de carottes servent à faire des bouillons. Les emballages et les packaging que vous avez sous les yeux, figurez-vous qu'ils sont en pulpe de maïs compostable. Et puis il y a aussi également la livraison, et là elle se fait par
Vélo-cargo.
Ouais. Vous voyez ce que c'est, Elvie? Vous nous en aviez parlé pendant le confinement. C'est une flotte de coursiers à vélo qui garantit des livraisons zéro émission. Voilà, Naturaliste, du bon et du sain, à prix accessible sans plomber la planète. C'est un nouveau mode de restauration, celui de Romain Médère et de Charlotte Bringand, avec la caution d'Alain Ducasse. L'émission a été préparée par Nadia Chougui et Morgane Mison. Elle est réalisée par Camille Blanès avec à la technique Juliette Delperou. Djoubaka pour la programmation musicale. Dans un instant, on s'en paye une tranche après un petit tour musical en Italie que je vous laisse annoncer, Eleonora.
Le titre de la chanson « Immensità » d'Andrea Laszlo de Simone.
Et c'est le chouchou d'Elvira Masson.
Ah, c'est mon nouveau chouchou, j'adore.
Se ne
Le carpaccio, c'est le menu d'été dont on va déguster.
On va déguster les saveurs de l'été.
Comment un plat italien de viande crue est devenu en quelques décennies une icône de la gastronomie mondiale? Eh bien, on va essayer de résoudre cette énigme avec une chef italienne qui connaît Venise comme sa poche. C'est Leonora Zuliani.
Oui.
Le nom de votre trattoria d'ailleurs, votre trattoria parisienne trahie. Votre passion pour Venise. Il baccaro, vous nous rappelez la définition d'un baccaro?
Il baccaro, c'est un petit bar à vin vénitien. C'est un type d'établissement, donc c'est pas un nom propre. Et c'est le petit bar à vin vénitien dans lequel on peut manger un petit tapas, c'est-à-dire il cicchetto, en buvant un verre de vin, l'ombra, comme on dit en vénitien.
Ou de spritz.
Ou le spritz, ou le spritz, exactement. Et voilà, dans notre restaurant, on propose des spécialités vénitiennes et aussi de ma région natale, parce que je suis quand même née dans le Frioul, c'est la région qui est juste à côté, à nord-est de Venise. On propose aussi des classiques italiens, mais l'idée, c'est de donner plutôt une identité de ces régions-là, qui ne sont pas forcément très connues.
Et vous servez d'ailleurs un carpaccio un peu spécial?
Quand il fait chaud, je préfère plutôt que de faire le vitello tonnato, qui est un plat du nord, mais du nord-ouest d'Italie.
Vous faites le carpaccio tonnato.
J'ai fait un carpaccio tonnato, si on veut dire. C'est-à-dire, c'est un carpaccio de veau, sur lequel je mets les mêmes ingrédients que le vitello tonnato, simplement traité différemment. Donc, il y a le veau tranché, bien sûr. Il y a le...
Mais alors, complètement cru ou un petit
J'ai jamais cuit parce que c'est vrai que le veau, c'est une viande très, très délicate. Mm-hmm. Donc, vu que je ne vais pas le congeler, je l'ai saisi très rapidement à la poêle et après, je le passe au four en fuseau d'un kilo et demi, il va rester 12 minutes maxi. Après, je le refroidis très rapidement dans la cellule. Et après, une fois froid, il est prêt pour être tranché, pour être dressé sur les assiettes, sur lesquelles je mets un tout petit peu de boutargue.
C'est pas un ingrédient traditionnel du vitello tonnato.
Parce que j'ai de la boutargue de thon.
Parce que vitello tonnato, on rappelle en un mot, c'est une sauce avec effectivement une émulsion avec
thon,
du thon.
Anchois. Capre et pas mayonnaise parce que c'est une mayonnaise qui est faite par contre avec des œufs cuits et on peut même pas mettre cette mayonnaise éventuellement dans la recette traditionnelle. Donc je récupère les mêmes ingrédients, le thon sous forme de bottarga de thon, le capre tout simplement en posant quelques capres par-dessus, les anchois avec la Colatura di Alici. C'est...
descendant du garum romain,
exactement,
un produit avec une fermentation de poisson.
Voilà. C'est ça.
Un jus de poisson, en fait.
C'est cousin lointain du Nhoc Mam vietnamien, pourrait-on dire. En tout cas, c'est la fameuse fish sauce à base de, d'anchois fermentés.
Très umami, très forte, très salin, etc., etc. Ça, ça remplace les anchois. Après, il y a un filet de bonne huile d'olive.
Mm-hmm.
Donc, on a rempli les cases, thon, anchois, capre, et après un peu de légumes, selon, ça peut être un mélange d'un mesclum parfumé avec un peu d'herbe, ou sinon de courgettes à couper en carpaccio, selon mon avis du moment.
Le carpaccio tonnato, mais on vous a aussi lancé comme ça un défi, et Leonora Giuliani, c'est de nous faire l'authentique carpaccio d'origine vénitienne. Racontez-nous cette histoire. Pourquoi ce plat est devenu aussi célèbre? Est-ce que c'est son nom mystérieux? Est-ce que c'est l'exotisme de ou le frisson de la viande crue? Ou est-ce que c'est cette légende qui est soigneusement entretenue par une famille vénitienne?
Bah, c'est un peu tout à la fois. Dans le sens que c'est un plat très très simple. Et comme souvent, les plats très simples peuvent être aussi très très bons. Et c'est devenu un mythe, comme les Beatles. C'est Giuseppe Cipriani qui l'a proposé à une cliente.
Giuseppe, Claire. Il faut préciser qu'il était patron du Harris Bar. Hein.
Exactement, c'est le patron de l'Harris Bar.
Lieu mythique de Venise.
Exactement, il calait Valaresso. Et on dit qu'en 1950, il y avait une expo du peintre Vittore Carpaccio dans laquelle il utilise beaucoup de couleurs, de rouge vif, de jaune de Naples. Vu que dans cette assiette-là, on utilise ces couleurs-là, Giuseppe Cipriani, il a voulu appeler ce plat Carpaccio, le nom du peintre. Comme on disait, c'était une cliente à lui qui avait des problèmes de santé. Son médecin lui avait interdit de manger de la viande cuite.
C'est ça.
Et donc, exactement, Giuseppe, il inventait ces plats. C'est des fines tranches de faux filet qu'il faut couper dans la masse. C'est-à-dire, on achète tout le morceau qui pèse 1,3 kg, 1,4 kg à peu près.
Mm-hmm.
Une fois qu'il est paré, nettoyé, etc., on réduit de presque la moitié le poids. Donc, ça fait une portion pour 6 personnes, en comptant 100 grammes, 120 par personne. On doit les couper avec une trancheuse, parce que à la main, c'est vraiment très, très difficile.
Ça se faisait vraiment à la trancheuse au Harris Bar, et ça se fait toujours à la trancheuse. Interdiction, selon les règles de la famille, de congeler d'ailleurs la viande pour faciliter sa découpe.
Exactement, parce qu'on peut la mettre au frigo, ou à la limite, à quelques minutes, juste au congélateur, juste pour la faire durcir, et c'est tout.
Mm-hmm.
Parce que la viande, après, une fois qu'elle décongèle sur les assiettes, ça rend tout l'eau, ça devient vraiment pas trop sympa.
Mais on peut tricher un peu à la maison.
Oui, on peut couper avec un couteau bien aiguisé. Après, on peut mettre sur deux feuilles de papier.
Du coup, on met combien de temps au congélateur? C'est quoi? C'est un quart d'heure?
Oh, même pas 10 minutes. Hein. Ouais. Et voilà, très très peu. Et après, on peut aplatir sous deux feuilles de papier sulfurisé, rouleau à pâtisserie, tout simplement. On dresse sur les assiettes. On met les assiettes au frais. On prépare la sauce.
Justement, on va la faire goûter parce que moi, je voudrais pas que vous révéliez trop les ingrédients de cette sauce. N'imaginez surtout pas à la maison, chers auditeurs, le carpaccio qui est un peu devenu ce qu'il est en France, c'est-à-dire sa grosse perruque de roquette, des copeaux de parmesan, etc. Là, c'est vraiment un carpaccio nu, très rouge, avec simplement une sauce dont on va vous révéler le secret. La couleur blanche de l'assaisonnement avec le rouge carpaccio est saisissant. Il n'y a pas de bain d'huile d'olive, il n'y a pas de pignon, de lamelles de parmesan. Ouais. Quel geste vous utilisez pour condimenter justement ce carpaccio, pour l'assaisonner? On dirait un geste d'artiste.
On fait une espèce de dripping, pas à la Pollock, un dripping à la Kandinsky. On fait des lignes avec une cuillère.
À la Kandinsky, c'était effectivement, ça faisait partie des règles aussi du carpaccio originel, qu'on peut toujours d'ailleurs déguster à Venise, comme ceci.
On fait des lignes.
Vous n'en mettez pas trop quand même. Hein.
Il faut qu'on voit la viande.
Donc on ne recouvre pas totalement, c'est pas une inondation. Hein. On ne recouvre pas totalement la viande crue. Mais on fait effectivement, on se prend pour Kandinsky. Alors le carpaccio arrive sous le micro d'Anetor. Petit commentaire et essayez de deviner de quoi il s'agit.
C'est super bon. Un petit peu d'acide, un petit citron. Il y a une émulsion à l'huile. Donc il y a une émulsion à l'huile. Qu'est-ce qu'il y a?
Si, il y a de la crème. Il y a quelque chose ou un fromage.
Tu sens, mais c'est proche, mais pas exactement de la crème. Hein.
Non.
Mais tu te rapproches.
Ah. Du lait?
Oui. Du fait qu'il y a le
lait. Donc c'est du lait émulsionné avec quelque chose.
Avec du.
À la base, quand même.
Du parmesan?
Non. Mayonnaise.
Ah, c'est ça. Fameux carpaccio italien qui n'a rien d'italien finalement. Il n'est pas très italien identitairement ce plat en fait, parce que de la viande crue, même si on en mange aussi du côté d'Alba et dans le Piémont, du veau cru, etc. Mais c'est vrai que cette condimentation, elle est plutôt internationale, avec une influence à la fois française, mais également anglaise. Hein. Expliquez-nous cette sauce.
Ça se fait avec une sauce mayonnaise classique. Donc on commence avec un petit peu de moutarde, un peu de jus de citron, sel, poivre blanc. On émulsionne avec les jaunes d'œufs. Après, on verse l'huile, huile d'arachide ou d'olive très, très, très léger. Que la mayonnaise est prête. On rajoute à peu près 3-4 cuillères de lait entier, frais, un peu de Worcester et un peu de jus de citron.
Et le lait sert à quoi ? Il sert à détendre un peu ?
Exactement. Ça sert à détendre la sauce et justement pour pouvoir l'étaler sur, sur l'assiette.
C'est un régal.
C'est vraiment une invention de World Cuisine, parce que c'est les années 50, c'est le début des grands voyages, le Harris Bar, l'hôtel Cipriani aussi, toute cette famille qui amène un public qui aime les mélanges.
Absolument, et on va voir que le carpaccio peut vraiment se détacher de ses origines vénitiennes avec Anetor, qui nous propose des recettes qui tranchent, mais alors qui tranchent vraiment avec la recette des origines. Il part très très loin avec vous le carpaccio ?
Oui, je crois qu'il n'y a que 3 recettes de viande sur 30 et une recette de bœuf. Et traditionnellement, c'est vrai que je fais plutôt du poisson ou du végétal, très peu de viande.
D'où vient cette passion carpaccio, Anne ?
Je pense quelque chose de l'enfance, parce que j'ai un papa qui cuisine énormément, et je pense que j'ai mangé du carpaccio à une époque où on n'en mangeait pas du tout. En tout cas, j'ai des souvenirs de poisson cru quand j'avais 14-15 ans. Je donnerai pas mon âge à l'antenne, mais c'était il y a longtemps. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est des poissons qu'on cuisine peu. Là, j'ai fait du bar parce que c'est ce que j'ai trouvé au marché, mais il y a plein de poissons qui se prêtent au carpaccio auxquels on n'a pas idée forcément de prêter attention alors que c'est très bon. Et ce qui m'amuse, c'est des accords un peu étonnants et différents de ce qu'on trouve d'habitude. Donc, je pars d'un ingrédient, je peux trouver une super huile, une huile d'olive ou une huile aromatisée à partir de laquelle je vais construire un carpaccio.
Le carpaccio, pour vous, c'est en fait un formidable terrain de jeu, une espèce de page blanche sur laquelle vous pouvez vous exprimer. Ouais. Alors, avec l'élément principal, évidemment, qui est tranché fin, c'est le principe de la technique du carpaccio, et ensuite, entre en action les condiments.
L'assaisonnement.
Et l'esthétique est important.
En fait, ce qui m'amuse, c'est qu'est-ce que je vais trouver, avec quoi je vais le faire, où j'aille. J'ai des petites habitudes, il y a des endroits où je trouve des produits, alors... C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant la réalisation du livre avec Sabine. Je me disais, il faut pas que je fasse rêver des gens avec des carpaccio et des ingrédients improbables qu'on trouve pas. Donc, à la fin du livre, c'était hyper important pour moi. Je donne la liste de tous les endroits où on peut se fournir en ligne, ou en tout cas à Paris et même en province. Mais on peut faire plein de choses. Et puis après, on peut imaginer, parce que mon idée à moi, c'était de donner des règles de base pour cuisiner le carpaccio. En tout cas, comme on le fait. Et puis, une trentaine d'associations possibles. L'idée, après, c'est que chacun fasse un peu comme il veut.
C'est ça. Il faut préciser que votre livre, c'est davantage, en fait, une méthode. On va rentrer un peu dans le détail de cette méthode, précisément. Et l'avantage du carpaccio, en plus, c'est qu'on peut le pratiquer en vacances. Il est assez low-tech, entre guillemets, très peu d'ustensiles nécessaires. Et en plus, le carpaccio, c'est un caméléon qui s'adapte sur son territoire.
Exactement.
Quels ustensiles, juste ?
Alors, un très bon couteau. Et ça, dans les maisons de location, il n'y en a pas. Donc, moi, j'ai un couteau filet de sol, qui est un couteau à longue lame, souple, qui coûte pas très cher. C'est vraiment un investissement qui vaut la peine, parce que ça, j'en ai, quand on me demande des carpaccio et qu'il n'y a pas de couteau ou le couteau à bourron de la cantine, c'est beaucoup plus compliqué. La mandoline, parce que la trancheuse, ça prend plus de place dans la valise. Mais la mandoline, c'est quand même très pratique.
Et puis c'est lourd, la trancheuse.
Et puis c'est lourd, mais enfin bon, je prends bien mon embosseuse à saucisse, je peux prendre la trancheuse, mais les deux.
Oui, parce que votre autre passion, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est aussi la saucisse maison, formidable.
Voilà.
On attend le livre avec impatience.
Il y a déjà un livre formidable sur les saucisses.
D'accord.
Et la microplane.
Préciser.
Oui, la râpe microplane. Alors c'est vrai que c'est une marque, on n'a peut-être pas le droit de donner une marque, mais c'est une râpe exceptionnelle et moi je l'emporte partout où je vais.
Voilà.
Donc ça, ce sont 3 ustensiles un peu incontournables.
Oui.
Après, c'est bien de prendre 2-3 ingrédients. Le poivre, très important. Pareil, dans la maison de Locke, le poivre dans la petite boîte en plastique gris et déjà moulu.
L'horreur,
ouais, voilà. C'est-à-dire que pour éternuer, c'est nickel. Pour assaisonner, ça marche beaucoup moins bien. Mais que pour éternuer. Donc le bon poivre, la bonne huile d'olive. Alors il y a plein d'autres huiles et moi je fais de l'huile aussi, mais... La bonne huile d'olive, c'est quand même important. Et puis après, sur place, c'est génial. Vous trouvez, vous ne ferez pas la même carpaccio en Bretagne qu'en Méditerranée, mais les produits locaux, offre mille possibilités.
On va justement faire quelques ricochets et rebonds autour des carpaccio que vous nous avez apportés. Ils sont absolument superbes. C'est quelques-uns des exemples comme ça que vous inspirent vos courses au marché. Mais je vous propose de faire d'abord un petit détour, de prendre l'air à Fleurido, d'un charmant village près de la mer Méditerranée. On est entre Narbonne et Béziers. Nous sommes en lisière du parc naturel régional de la Narbonnaise, dans le département de l'Aude. Notre reporter Stéphane Combe est allé faire un tour dans les cuisines de Jérôme Jordi. C'est le chef du restaurant La Tulipe Noire. On évoquait le thon rouge dimanche dernier. Et bien, pour accompagner justement une pièce de thon de Méditerranée rôti, le chef Jérôme Jordi façonne un carpaccio de courgettes, mayonnaise, pommes, safran.
La recette, ça va être un petit carpaccio de courgettes, c'est l'été. Le thon, il se marie très très bien avec les végétaux. Donc on va faire un petit carpaccio de courgettes, juste assaisonné vinaigre balsamique. On va y venir râper un petit peu de parmesan cru dedans. Et on va faire ça avec des petites girolles et une mayonnaise à la pomme et au safran. Il faut montre en main un bon 20 minutes. Voilà. Et pour notre recette, on va prendre le cœur de thon. Donc ça, c'est la partie centrale du poisson. Donc là, pendant qu'on va s'occuper de finir de découper la longe de thon, pendant ce temps-là, on va en profiter pour faire cuire la pomme au four. Donc un four à 180 degrés, une pomme golden de préférence, dans une plaque, dans le four, pas d'huile, rien.
Et pas épluchée.
Et pas épluchée, avec sa peau. Et maintenant, on va récupérer notre courgette. On la tranche pour en faire de grandes tagliatelles. Une assiette creuse et on y dépose au centre, voilà, nos petites lamelles de courgette. Un peu de fleur de sel et du poivre du moulin. On va s'occuper, on va passer à nos petits copeaux de parmesan. On va avoir le côté fruité, là, on va avoir...
Voilà. Elle est bien cuite, hein, la pomme, là.
Donc là, elle est cuite. En plus, elle a rendu un peu de jus qui est forcément gorgé de sucre. Et dans le four, dans la plaque, c'est un petit peu caramélisé. On va la couper en quatre, des cubes. Voilà. Et avec l'ail et la pomme, on va ajouter tout de suite un peu de safran et l'huile d'olive. Donc on va mixer fortement la pomme, l'ail, le safran et l'huile d'olive. Il faut apparaître. Et là, dans le même bol de mixeur, on va y casser 3 œufs entiers. On va les mixer pour les casser. Et à ces 3 œufs, pendant qu'ils tournent, on va ajouter notre préparation de pommes, de safran et d'huile d'olive. Voilà, c'est parfait. Hop. Donc maintenant, on va passer à la cuisson du thon. Donc vous graissez légèrement le fond de votre poêle, la pulpe contenue dans l'huile d'olive brûle à 80 degrés. Voilà, et on dépose nos filets de poisson. Alors vu qu'on a coupé dans le sens de la fibre, eh bien on n'a pas besoin de trop s'inquiéter, c'est un peu comme un filet de bœuf là. On va le laisser et il va faire sa vie tranquillement. On remet un petit peu d'huile sur le poisson. On va laisser notre poisson un petit peu reposer pendant qu'on va préparer nos girolles. Une casserole un petit peu plus grande que la quantité de champignons. Et là on va y ajouter nos girolles. Là, on les laisse. On les enroule un petit peu dans le beurre. Voilà. C'est bon. On prend nos lamelles de courgettes et on va commencer à les disposer dans l'assiette. Ensuite, on va venir déposer nos petits copeaux de parmesan. Après, on prend notre petit morceau de thon. Voilà. Et un petit tour de moulin à poivre. Et ces deux morceaux de thon tranchés, on va venir les déposer sur notre lit de courgettes. Ensuite, on va récupérer notre mayonnaise au safran. Et on va venir finir avec nos fameuses girolles qui ont fini de cuire tranquillement, sans agression de la chaleur, dans le beurre chaud.
Alors je goûte. C'est extraordinaire.
Ouais, c'est,
une explosion c'est une explosion de parfum.
Exactement.
Là, la pomme, on la sent, mais elle est loin. Mais
elle vient juste équilibrer la puissance de l'ail. Après, on prend notre petit morceau de thon. Et vous voyez, on a gardé une belle couleur rosé à cœur.
L'intérieur est encore violet. Hein.
Il est cru même.
Il fait envie, non, ce carpaccio de courgettes signé du chef Jérôme Jordi dans
Très
l'Aude.
Envie.
La recette est à retrouver sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Tout le monde se régale avec votre carpaccio de poisson à Nétor qui fait mouche. Il est remarquable.
C'est une merveille. Oh là là. L'assaisonnement est génial, le sarrasin torréfié, l'huile d'olive un peu ardente comme ça, le mélange salicorne qui croque sous la dent, qui est un peu iodé, le pourpier qui est un peu plus gras et un peu frais comme ça. C'est noisté, c'est iodé, c'est frais, la texture est géniale, c'est super bon.
Bar, sarrasin, salicorne, pourpier, huile d'olive, un peu d'acidité,
un petit peu de salicorne avec l'acidité, avec la salicorne, qui est une bonne alternative au citron l'été. L'hiver, il y a plein d'agrumes, on n'en a pas l'été, et moi j'aime bien la salicorne, qui est pour le coup un vrai produit d'été.
Avec des notes à la fois salines et très acidulées.
Exactement.
Quel poisson ? Beaucoup d'auditeurs nous posent évidemment la question. C'est vrai que pas mal de Français vont passer leurs vacances sur les littoraux, atlantiques ou méditerranéens. Quel poisson se prête au carpaccio, c'est-à-dire à une découpe et une consommation crue ?
Alors, il y a déjà une chose, c'est qu'il faut acheter son poisson entier. Chez le poissonnier de préférence, et lui demander de lever les filets, et éventuellement d'enlever les arêtes, parce que sinon on peut le faire, mais c'est un peu long et fastidieux avec une petite pince à épiler. On n'achète pas le poisson supermarché en filet, qui est là depuis super longtemps sur les étals, on ne sait pas d'où il vient, donc ça c'est pas génial, donc on préfère le poisson entier. Le bar, la dorade, c'est archi classique, il y en a partout. On peut trouver du pagre, du maigre, du chinchard, du taco, du maquereau.
Des poissons un peu moins chers que la dorade
et le bar. Des poissons un peu moins chers que le bar et la dorade, traditionnellement. Du loup en Méditerranée, évidemment.
Vous avez dit maquereau aussi ?
Alors, maquereau, faut les prendre un peu plus gros, parce que les petits, c'est plein d'arêtes et c'est compliqué de lever les filets. Moi, je fais lever les filets par le poissonnier, parce que il fait ça mieux que moi. Mmh. On les met côté peau et on les coupe très très finement. On met ça sur une assiette. On réserve au frais, filmé plutôt, le temps de préparer les autres ingrédients. On ne laisse pas traîner quand il fait 35 dehors et qu'on prépare le repas, le poisson dehors. On fait attention.
Il y a des poissons qui ne se prêtent pas à l'exercice du carpaccio ?
Oui, il y a des poissons qui sont... Alors par exemple, le cabillaud, c'est pas génial. Et puis il y a des histoires... Le cabillaud, c'est pas un poisson qu'il faut manger cru. Il y a une histoire de ver, je sais pas... Voilà, on m'a dit qu'il fallait éviter. La lotte, non plus, pas génial. La rascasse, c'est super aussi, cru.
On va voir que... Mais dans un peu plus tard, que le rouget se prête remarquablement à l'exercice du carpaccio.
Tout à fait. J'ai découvert ça en début d'émission,
avec
j'en
Eleonora.
Ai jamais fait.
Ouais. Et ben voilà, comme quoi, échange et partage d'expérience sur le plateau dont on va déguster. Vous avez aimé ce carpaccio de bar ?
Extra. Extra, le croquant du sarrasin, ça donne...
Que vous avez légèrement torréfié.
Alors le sarrasin torréfié, c'est un peu, si je m'écoutais, j'en mettrais partout. J'adore ça.
Mais vous avez raison, je comprends, il a tellement bon.
Ouais, c'est gourmand, c'est noisté.
Ça apporte quelque chose différent.
C'est plus léger que le pignon, surtout. Ça allège en plus le carpaccio.
Oui, c'est vrai que c'est aérien, il y a une texture croustillante.
Oui.
Vraiment, bravo, une recette à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Est-ce que notre chroniqueur vin du jour va trouver l'accord avec ce carpaccio de bar ? Pas sûr.
On va déguster sur France Inter.
Antoine Gerbel.
Alors moi, pour cet été, je vous fais un peu voyager. Alors c'est vrai qu'on va rester en France, en grande majorité des Français. Alors je vais commencer ma chronique d'abord par un livre, parce qu'on a du temps, on va se poser, on va lire. On va continuer à lire, parce que pendant le confinement, je pense que beaucoup de gens ont retrouvé la lecture. Alors je vais vous parler d'un joli petit livre qui s'appelle « Vigne première, vigne de demain », signé Robert Plajol aux éditions Tonnerre de l'Est. Alors Robert Plajol, on le connaît bien, on va déguster. Vous, François Régis, vous en avez parlé pas plus tard que dimanche dernier, à propos de sa cuvée contre-pied, cuvée à base de Duras, qui vous avait enchanté, que vous avez bu à Toulouse. Alors les Plajol, pour ceux qui viennent de découvrir la planète des vins d'auteur en même temps que le Covid-19, je rappelle que Robert Plajol, 85 printemps, c'est aujourd'hui un de nos plus érudits vignerons français, penseur, militant de la diversité, et qui est encore dans une région trop méconnue et trop sous-estimée qu'est le Sud-Ouest, ce grand Sud-Ouest qu'on a du mal avec tous ces départements à vraiment identifier. Et voilà, j'ouvre la parenthèse en disant... Activez-vous, bougez-vous pour aller voir les vins du Sud-Ouest, parce qu'après la Loire, après le Jura, après la Savoie, qui sont en train de flamber chez tous nos cavistes adorés, le Sud-Ouest, il reste à découvrir, et il est très abordable. Alors, rencontrer Robert Plajol, c'est comme rencontrer la cathédrale d'Albi, une forteresse d'humanité, un puits de savoir vécu, d'expérience, de force, de travail, de ténacité, mais aussi d'humour et de fantaisie. Alors, qui parle ainsi, c'est Madame Lalou Bise-le-Roy, quand même copropriétaire de la prestigieuse Romanée Conti, qui signe à la préface de cet ouvrage. Alors, l'ouvrage, bon, je vous laisse le découvrir. Beaucoup d'illustrations, c'est-à-dire, il faut citer l'illustrateur Bertrand McGo, beaucoup de photos, et c'est un petit condensé de la vie de Robert Plajol, qui raconte toutes ses passions, c'est-à-dire les cépages oubliés,
oui,
évidemment.
Il a redécouvert bon nombre de
cépages. Son Gaillac natal, cette grande plaine au nord du Tarn. Et surtout, c'est le plus intéressant, là, faut vraiment s'arrêter. C'est pour ça que Lalou Bise-le-Roy, d'ailleurs, a co-signé la préface. C'est que, il s'intéresse sur la vigne sauvage. Vous savez qu'on a un grand problème aujourd'hui avec les vignes. Nos vignes, elles sont pauvres, elles se sont appauvries. Il y a des siècles et des siècles, on a planté des pépins de raisin. Et puis, depuis, on fait simplement que reproduire des porte-greffes. On greffe, après le phylloxéra, on greffe nos cépages sur des porte-greffes dits américains. Et lui, il a travaillé sur la vigne sauvage, une vraie vigne sauvage, dans sa forêt de Grésy, qui est une forêt du sud-ouest, presque native. Et c'est très intéressant ce qu'il fait comme recherche, parce qu'il se rend compte qu'avec le réchauffement climatique, bah, les porte-greffes sur vignes sauvages, eh bien, ils tiennent mieux, ils résistent mieux à la chaleur, ils sont généreux. Lui, il dit que les pieds de 5 ans qu'il a plantés de verdanelle, qui est un cépage du sud-ouest, il dit, j'ai jamais vu ça. Et puis c'est la vigne mère de 10 000 cépages quand même, cette vigne sauvage. Donc voilà.
J'invite d'ailleurs nos auditeurs à réécouter une émission où nous avions invité Bernard Plajol pour nous parler de cépages oubliés avec André Derieux.
Le fils de Robert, voilà. Absolument. Parce que c'est une fratrie magnifique. Alors j'aurais pu prendre un vin effectivement des Plajol, mais je conseille aux gens plutôt d'aller, on en a déjà parlé, il y a un site internet qui est très très bien fait, qui raconte l'histoire de toute la famille. Et puis, aussi, Covid oblige, ils ont fait une belle petite boutique, donc on peut acheter à distance. Et ça, c'est aussi, c'est en train de se développer beaucoup dans le monde du vin. Beaucoup de vignerons qui ne vendaient pas en direct s'y sont mis. Alors moi, j'ai prolongé le voyage et je vais chercher des cépages méconnus, une méthode de vinification ancestrale, un peu comme chez les Plajol, et vinification naturelle. Et là, je suis parti en Tchéquie. Je suis parti sur un vin tchèque. Alors l'histoire est assez drôle, je me promenais sur les rives normandes, je me suis arrêté à Caen, un excellent caviste qui est bien connu, à la cave Les Méchés,
oui.
En trois mots, jeu de mots. Jean-Charles Allais, qui a une cave de vin nature somptueuse, il me dit, est-ce que tu connais les vins de... Alors, je me loupe pas, Richard Savec. Alors Richard Savec, je dis, oui, j'ai rencontré ce garçon qui parle pas du tout le français, un anglais un peu compliqué, mais j'avais été subjugué par ses vins. Il me dit, j'ai quelques bouteilles, est-ce que tu veux en emmener sous le coude? Et je suis parti avec ces bouteilles, je les ai dégustées, je me dis, faut que j'en parle durant l'émission. Alors c'est un vin nature, bien évidemment, vous l'avez dans votre verre, alors commentez cette couleur.
On l'a plus en fait.
On va dire que c'est à peu près la même couleur que mon infusion citronnelle mélisse juste à côté, donc c'est-à-dire un peu improbable avec des reflets... cuivré, vermeil, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. On devine évidemment un vin de macération.
Voilà, alors il s'appelle Divi Rizak. Alors, je parle parfaitement le tchèque. Divi se traduit normalement par sauvage et Rizak par gingembre. Donc il a appelé ça, en fin de compte, c'est un vin de gingembre par la couleur. Et donc effectivement, quand vous laissez macérer du gingembre dans une casserole, ça vous donne cette couleur-là. C'est surtout le mélange de multiples cépages que je ne vais pas vous faire l'affront de prononcer. Des blancs, des rouges. Vous savez, l'année dernière, à la même époque, je vous avais parlé d'amalgame, ce vin fait dans le Minervois.
Absolument.
Par les Sénats qui mélangeaient les rouges et les blancs. Et je trouve que c'est une alternative très très vivante à cette vague du rosé, que moi j'essaye un peu d'éviter tellement ils sont stéréotypés la plupart du temps, surtout dans leur mode provençal. Là, on est vraiment dans la matière vivante. Et j'ai pensé au Carpaccio. Carpaccio, c'est une juxtaposition aussi de matière vivante, fraîche, qu'on ne cuit pas, donc on laisse dans le cru. Et ces vins-là ont un côté cru également.
Oui.
Que ça peut irriter les gens, peut-être classiques dans leur approche du vin. C'est-à-dire qu'on sent un peu la rafle, on sent un peu les épices de cette vigne.
Et puis c'est pulpeux, c'est juteux,
mais
c'est cru.
Mais qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Je trouve que cet été. Et ça fait 11,5 degrés. Je milite aussi quand même pour des vins qu'il faut baisser à tout prix le degré, et c'est naturel, c'est mûr à 11,5 degrés.
Et voilà. C'est digeste, bravo.
Et c'est digeste. Alors ça coûte un tout petit peu cher parce que c'est 4,5 hectares, les enfants, 4,5 hectares. À Caen, il y en a quelques bouteilles, mais il y en a un peu sur des sites internet. Ça coûte une vingtaine d'euros, mais c'est vraiment une expérience inoubliable.
Redonnez-nous les références, s'il vous plaît, avec l'accent.
Alors, Divi Rizak, et c'est signé par ce vigneron vraiment assez exceptionnel, qui s'appelle Richard Stavec.
Merci de ce brillant vin de macération. On passe à une autre surprise liquide et musicale. Vous connaissez évidemment le mélange cachaça, jus de citron, sucre de canne pour ce fameux cocktail brésilien.
La caipirinha.
Et la caipirinha, c'est aussi le titre de Jujua et Lieutenant Nicholson. Il fait chaud, il fait bon, c'est l'été sur France Inter.
Sa caipirinha, pas de soleil.
Sa caipirinha, pas de soleil.
Un fait d'hiver,
de pullover,
trois. C'est l'ivresse.
Quatrième verre.
Sa caipirinha, pas de soleil. Sa caipirinha, pas de soleil.
Bye.
Bye.
side, in land of sky.
Carpaccio fait son show et c'est avec un immense plaisir qu'on accueille en ce dimanche 12 juillet Anne Thor, auteur de Le Carpaccio, des recettes qui tranchent. C'est d'une poésie incroyable, une très belle illustration à chaque page. Quelle technique d'ailleurs ?
C'est de l'aquarelle. Et c'était formidable parce que en fait on a travaillé avec Alessia. Moi je faisais des carpaccio, je faisais des photos avec mon téléphone et je lui envoyais avec la liste des ingrédients. Et ce qui était hyper important, c'était qu'elle interprète mes carpaccio.
Et effectivement, en feuilletant chacun de ces carpaccio, on est ébloui par la beauté et la poésie de ces dessins. Bonite, cébette, grenade, fenouil, coriandre, huile d'olive, poivre noir, fleur de sel, carpaccio de chou-fleur, œufs de saumon, zeste de cédra, aneth, huile d'olive, pignon torréfié, thon rouge, radis red meat, zeste de combava. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Des recettes qui tranchent, le carpaccio signé Anne Thor aux éditions de l'Épure, un petit cadeau d'été tout à fait agréable. On était sur le poisson, on a été ébloui par ce carpaccio de bar à la salicorne et au pourpier, mais on va rester dans la thématique du poisson, c'est l'été. On ne savait pas forcément qu'on pouvait tailler très fin du rouget, cru donc.
Oui, c'est un rouget barbé, donc j'ai utilisé vraiment les moyens de bord qu'on peut trouver dans une maison de campagne pour faire sa carpaccio, c'est-à-dire que je n'ai même pas utilisé le couteau. Donc j'ai demandé au poissonnier de lever les filets.
Et c'est vrai que vous les avez disposés en étoile, ces filets de rouget barbé, qui font à peu près une quinzaine de centimètres de long. Mmh. Ils sont soyeux en bouche, hein. D'ailleurs la texture du rouget, c'était une des premières fois que j'en mangeais cru, c'est étonnant.
Il faut faire très attention parce que c'est un poisson qui ne supporte pas la chaleur 35 degrés, même 2 heures. Il faut vraiment être très très vigilant avec la chaîne du froid. Et donc je me suis fait lever les filets, ils étaient assez petits, même un peu plus petits que ça, François. Ils faisaient à peu près entre 10 et 11 cm.
D'accord.
Je l'ai mis entre deux papiers, comme je disais tout à l'heure, de papier
sulfurisé.
J'ai passé un rouleau de pâtisserie, mais on peut passer très bien une bouteille de vin, voilà, aucun problème.
Oh,
voilà,
ah,
voilà, exactement.
On va s'en sortir,
jamais.
Antoine.
Jamais.
Vide, rempli d'eau. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai entreposés au frigo. J'ai fait un coulis de poivrons hyper simple. Ah, par contre, j'avais oublié, j'ai fait une espèce de mini gravlax pour les rejets. C'est-à-dire que, avant de les presser dans de les feuilles de papier de
sulfurisé,
j'ai mis en part égale un tout petit peu de sel, un tout petit peu de sucre. Vraiment pas beaucoup, hein.
Ça va te parler de suédoise et
c'est
ramassant.
C'est moi, ça.
C'est vrai. Un filet d'huile d'olive, très bonne huile d'olive, parce que l'huile d'olive, il faut qu'elle soit bonne, sinon on la met pas. Pressé entre deux feuilles, passage au frigo, on peut les laisser même au friseur pendant 10 minutes, comme ça.
S'il y a... Vous avez triché un peu, il y a une petite marinade.
Voilà, une mini marinade. Coulis de poivrons, c'est des poivrons rouges, on les nettoie, on les met dans une casserole, un filet d'eau, un peu de sel, on les cuit à l'étouffée, 10 minutes, un quart d'heure à peu près. La seule chose qu'on doit avoir, c'est un mixeur à immersion. On n'enlève pas la peau, on les met tout comme ça.
Incroyable.
Et quand on les mixe, on rajoute le sel, un filet d'huile d'olive, et ça fait une petite émulsion qui est vraiment presque sucrée. On peut rajouter un tout petit peu de sucre éventuellement, et c'est tout.
Et la couleur rouge-orangée, en plus, est superbe dans l'assiette. Et vous condimentez naturelle. Aussi, on distingue des demi-olives.
Alors, il y a des olives, voilà, pour donner pour rester dans la Méditerranée avec les rouges, ça marche très bien. Il y a des tranches de courgettes crues, courgettes blanches, que j'ai fait juste mariner avec un peu de vinaigre de vin blanc.
Mm-hmm.
On les fait, on les laisse 4 heures mini dans le vinaigre. On les égoutte, on les met par-dessus. Ça fait comme un pickles, mais pas aussi acide qu'un pickles parce qu'ils ont fait juste une petite marinade. Et bah, ma foi, c'est tout. Après, un peu de zeste de citron.
Juste pour apporter un peu de tonicité.
Exactement.
Bravissimo.
Le zeste de citron, c'est le... Vous savez, le diable, il est dans les détails. Et les zestes, c'est vraiment un détail.
Non, on sent qu'il y a...
Diable.
Absolument. Il y a une démarche de chef, même si vous le faites, effectivement, on l'a compris, avec très peu d'ustensiles. C'est vraiment le carpaccio un peu ménager, de vacances, si on a la chance, évidemment, de tomber sur un rouget barbet bien frais. Un grand merci, Eleonora Giuliani. Et précisons que votre recette figure sur le site internet de l'émission. Elle nous raconte le destin alimentaire d'un grand homme du XXe siècle, porte-parole de la non-violence.
On va déguster. Sur France Inter.
Elvira Masson, a-t-on deviné le profil de ce grand homme de l'histoire du XXe siècle que vous évoquiez ?
Qui était « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Qui a pu dire une phrase pareille ?
Non-violence,
un grand homme, leader pacifiste, non-violent.
Gandhi.
Et voilà.
Bravo Antoine Gerbel.
Alors on a l'impression de bien connaître la vie de Gandhi parce qu'on a vu sans doute le film de Richard Attenborough, qu'on a peut-être lu cette nuit La liberté de la Pierre et Collins, mais la plupart de ces films et récits se sont peu intéressés à un aspect important, fondamental même de sa vie et de son engagement. C'est son végétarisme. Alors je suis tombée un peu par hasard sur un livre intitulé « Du végétarisme » paru en 2018 dans la collection Petite Bibliothèque chez Rivage Poche, qui offre un choix de textes inédits écrits par Gandhi lui-même essentiellement. Des lettres et des discours qui portent sur cette question. Alors dans sa préface vraiment passionnante, Florence Burga, philosophe, directrice de recherche à l'INRA, note que si, dans l'esprit de beaucoup, ce régime végétarien était probablement attaché à la figure du Mahatma que de manière vague, en tant qu'hindou, il devait être végétarien, Gandhi s'est en fait approprié le végétarisme jusqu'à en faire une mission personnelle. Alors, il était issu d'une famille strictement végétarienne, mais il avait été poussé, adolescent, à manger un peu de viande, influencé par un ami qui avait réussi à le persuader que là résidait la clé de la santé et de la force, et que le fait que les Anglais soient des carnivores expliquait même leur suprématie sur l'Inde. À 18 ans, Gandhi part faire ses études de droit en Angleterre, après avoir promis solennellement à sa mère de ne pas toucher ni à l'alcool ni à la viande. Arrivé en Angleterre, dans les familles qui l'accueillent, évidemment, ne mangeant que de légumes, il mange pas très bien, il mange pas à sa faim. Lors de ses promenades quotidiennes, qui était son rituel, le jeune homme tombe par hasard sur un restaurant végétarien. Trouvaille qui l'emplit d'une joie comparable, je cite, à celle de l'enfant qui voit enfin combler son rêve le plus cher. Il y achète un livre fondateur, c'est Plaidoyer pour le végétarisme de Henry Salt, un livre vraiment très important, dont la lecture le fait choisir et non plus subir le végétarisme. Je le cite, j'optais pour le végétarisme et sa propagation devint dès lors pour moi une mission. Il adhère bientôt à la Société végétarienne de Londres, puis fonde lui-même un club végétarien dans son quartier de Bayswater. D'un point de vue éthique, il en vient ainsi à considérer qu'il doit y avoir entre les êtres humains et les autres animaux une aide mutuelle, le plus fort devant protéger le plus faible, et non pas une relation de prédation. D'un point de vue spirituel, il se convainc que l'on ne doit pas manger par plaisir, mais pour vivre, dans sa dimension assez ascétique. Il renonce alors aux œufs et aux produits laitiers. Si les œufs sont généralement considérés comme de la viande par les hindous, le lait et le beurre clarifié, le fameux ghee, sont valorisés. Mais pas pour Gandhi. Le seul lait qu'il trouve grâce à ses yeux est le lait maternel. Toute sa vie, Gandhi va expérimenter des modes d'alimentation assez surprenant. voire carrément contestable. Totalement ignorant des bases d'une alimentation végétale équilibrée, pendant un temps, il se nourrit par exemple exclusivement de beurre de cacahuète, de jus de citron et de fruits, pendant des mois. Une autre fois, pendant une année entière, il se prive de légumineuses, dont pourtant les bienfaits sont avérés.
Grosse source de protéines végétales.
Dans la cuisine indienne classique d'ailleurs. Ou bien, il décide de ne manger que des céréales. Tout ceci évidemment au détriment de sa santé, ce qui a dû le résoudre à un moment à consommer du lait de chèvre, ce qui était très compliqué pour lui moralement. Les textes réunis dans Du végétarisme nous permettent de mieux comprendre et de mieux connaître son engagement en faveur de cette discipline et comment il quitte la sphère obscure de l'interdit pour entrer dans celle, pour lui en tout cas, claire, de la rationalité éthique. Et avec toujours cette intensité et cette sagesse mêlée qui lui sont propres, et je le cite pour finir, « Je souhaite attirer votre attention sur le fait que les végétariens doivent être tolérants s'ils veulent convertir d'autres personnes au végétarisme. Ils doivent faire preuve d'humilité. Nous devons en appeler au sens moral de ceux qui ne voient pas les choses du même œil que nous. »
Très bien, Du végétarisme, Gandhi, préface de Florence Burga, ça coûte 5,80€.
C'est voilà. Passionnant culturellement.
Une belle idée de lecture estivale pour percer la philosophie alimentaire d'un grand du XXe siècle, Gandhi.
Passionnant.
Merci beaucoup.
Et pouvoir rentrer dans son maillot de bain aussi.
Et pouvoir rentrer dans son maillot de bain et pouvoir déguster le dernier carpaccio d'un étor qui est 100% végétal. La vie est bien faite.
Tout à fait.
C'est véritablement un tableau coloré. Constitué de rondelles fines disposées, entrechassées.
Oui, alors dans celui-ci, il y a de la courgette jaune, de la courgette violon, trompette. Moi, j'appelle ça de la courgette de Nice, que j'ai rapportée de Nice.
Parce que vous êtes niçoise, Anne-Hétor.
Tout à fait. Enfin, j'ai une moitié niçoise et une moitié bretonne.
Oula.
Et du radis violet de Gournay et du navelon blanc.
Oui.
Des fleurs de bourrage, parce que c'est joli.
Et parce que ça a le goût d'huître.
Pas beaucoup.
Oh,
et un petit peu de pignon.
Et c'est assaisonné comment ?
Alors là, j'ai assaisonné avec de l'huile de noisette.
Ah, vraiment. On allait finir avec ça. Voilà. La vraie touche de magie signée Anne-Hétor sur un carpaccio, c'est vos huiles aromatisées. Très simple à faire.
Très simple
même
à faire.
Même en vacances.
Même en vacances, avec de l'huile de pépins de raisin, qu'on porte à 60 degrés. Et puis, on fait macérer. Alors moi, je fais macérer 24 heures, mais je pense que c'est pas nécessaire de le faire macérer si longtemps. De la verveine. J'en ai fait avant les vacances avec... Avant l'été, avec des fleurs de sureau, des fleurs d'acacia. Donc j'ai mes petites fioles et je parfume sur des carpaccios végétaux, notamment, ça marche très très bien.
Donc le protocole en fait, c'est de prendre une huile neutre, type pépin de raisin.
Pépin de raisin, c'est très bien.
D'accord.
L'huile d'olive, ça peut altérer le goût, donc c'est mieux de prendre une huile neutre. On la chauffe à 60 degrés. Lorsqu'on est à 60, on éteint, on enlève l'huile du feu, on la pose. On met dedans la verveine ou la fleur de sureau ou la fleur d'acacia. On couvre. Et on laisse macérer, alors 12 heures, je pense que ça suffit largement. Et après, on filtre ou pas, moi je préfère filtrer. Et puis on garde ça, pas très très longtemps, mais 2-3 mois, ça suffit largement, ça se consomme assez rapidement.
Et on peut faire des expériences avec des herbes aromatiques, avec du thym citronné.
On peut faire avec tout ce qu'on veut, c'est ça qui est génial.
Absolument. Et on obtient effectivement une huile aromatisée pour...
Fenouil sauvage.
Fenouil
sauvage. Avec le fenouil, ça marche très
évidemment,
bien.
Évidemment, finocchietto.
Ouais. Finocchietto.
Ou finocchio selvatico.
La cuisine sicilienne.
Absolument.
Pasta con le sordo.
Ah oui, là on y est carrément, on va refaire une recette.
On part ailleurs là.
On part carrément en Sicile avec les spaghetti con le sardo, effectivement. Même si Venise, en termes de cuisine de la sardine, est quand même assez fortiche.
Ah, et commencer. Une salsa.
Et les sardes...
Une
saor, évidemment.
Pas d'acidité dans ce carpaccio ? Pas d'agrumes, pas de...
Si, il y a un petit jus de citron.
Ah oui.
Un petit jus de citron.
Citron vert,
très
en
bien.
L'occurrence.
Bravo.
Alors l'été, on a citron jaune, citron vert. L'hiver, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des milliers d'agrumes possibles. Et puis, je vous livre une petite information. Perrine et Étienne Chaleur, qui sont un jeune couple qui ont repris l'exploitation des agrumes Bachès
oui,
à Perpignan.
Absolument.
Ils ont une collection d'agrumes unique en France, pratiquement.
Quasiment dans le monde, on peut dire.
Et même dans le monde. Ils ont essayé pendant le confinement et ils vont poursuivre l'aventure d'ouvrir leur exploitation en particulier de manière assez confidentielle à partir de la rentrée de la nouvelle saison des agrumes. Donc, suivez-les sur leur compte Instagram. Ils vous donneront des infos. C'est une mine. Il y a des agrumes extraordinaires à utiliser sur les carpaccios.
Voilà,
et prolonger l'été.
ensoleiller nos hivers. Parfait, vivement l'hiver prochain. Un immense merci à vous deux d'être venus ensoleiller le plateau dont on va déguster. Je rappelle le titre de votre livre, Anétor, des recettes qui tranchent le carpaccio aux éditions de l'Épure avec les très belles illustrations d'Alessia Serafini. Un grand merci. Et Eleonora Zuliani, Il Baccaro, c'est votre trattoria parisienne, 9 rue Auguste Laurent. Est-ce que vous êtes ouvert cet été?
Oui, on va fermer une petite semaine autour du 15 août. Et sinon, on va être ouvert. Alors peut-être on aura réduit, peut-être que le soir, mais on sera là.
On vous recommande en tout cas chaleureusement ce restaurant tout à fait authentique, formidable, italien, oui, avec des saveurs vénitiennes.
On a un tout petit restaurant, donc il vaut mieux appeler pour réserver.
Absolument. Merci beaucoup à tous. La semaine prochaine, samedi à 11h, une rediffusion d'une émission que nous avions consacrée au tour du monde du poulet. Et dimanche à 11h, une émission toute fraîche sur les délices de l'anis, pastis, recette méditerranéenne. On va vous faire aimer cette épice emblématique qui est l'anis. Nous aurons en plateau notre libraire gourmande Déborah Dupont et Dominique Hutin qui nous fait un banc d'essais incroyable des pastis français. Vivement le week-end prochain si vous avez encore faim.